BFM Business, tout pour investir. Étienne Brasse.
C'est parti pour tout pour investir jusqu'à 12h en direct sur BFM Business. 11h, 12h, vous connaissez le rendez-vous. Chaque jour de la semaine, il sera question d'investissement, bien sûr, dans cette émission ce matin. Le côté, le non-côté, mais aussi l'art. L'art aura sa place dans cette émission. Ça sera le dernier quart d'heure de tout pour investir. 11h45, 12h. Dans quelques minutes, c'est Olivier Le Chevalier qui nous accompagnera de Gift Edge. Nous reviendrons, bien sûr, sur la Fed avec la Banque Centrale Américaine qui tient cette semaine sa réunion. Et c'est la dernière réunion de Jerome Powell. Ça sera demain soir. Nous parlerons bien sûr de cet élément qui, on le verra dans un instant, laisse les marchés très attentistes ce matin. Le CAC 40 est quasiment stable au bout de 2 heures de cotation. Les cours de la pistache, eux, s'envolent. Idem pour les prix du chocolat de Dubaï. Et pour cause, l'Iran est le deuxième producteur mondial de pistache. Explication en début d'émission. Et puis, dans la prochaine heure, il sera également question d'action japonaise avec les équipes de meilleur taux placement quand Hervé Marquez de HM Patrimoine vous donnera les pièges à éviter. Si vous commencez à investir vos économies, quelles sont les choses à savoir, quels sont les supports à connaître et puis surtout dans quel ordre il faut procéder. Élément de réponse, ça sera à partir de 11h30, mais juste avant à 11h02, c'est l'heure du tableau de bord.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Le tableau de bord, comme chaque jour, à 11h pour débuter cette émission, pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les grandes places financières, avec, comme hier matin, l'Europe qui est sur une note très prudente, hein, avant bien sûr les résultats des GAFAM. Ça sera à partir de demain soir jusqu'à jeudi soir avec Apple, la Fed, la Banque Centrale Américaine demain soir, et puis également, vous le savez, la BCE qui est attendue au tournant jeudi après-midi. Donc dans ce contexte, et on le verra également dans une vingtaine de minutes avec Gilles Santacreux de Boursicoté.com, eh bien le CAC 40 est au point mort, 8146 points ce matin. ST Microelectronics, Total Energy et Engie sont les plus fortes hausses ce matin. Le secteur de l'énergie qui est recherché et pour cause. Vous avez ce matin un baril de Brent qui est à 110 dollars sur des plus hauts de 3 semaines, alors que vous avez des négociations qui tombent toujours au point mort entre l'Iran et les États-Unis. Encore ce matin, Washington a dit que la dernière proposition de Téhéran ne plaisait pas à Donald Trump. Le point central, bien sûr, qui bloque encore et toujours, c'est le nucléaire iranien. 109 dollars donc pour le baril de Brent, 100 dollars pour le WTI. Total Energy gagne donc un peu plus de 2% à 78,58 €. Engie plus 1,4%. Le secteur énergétique qui est d'autant plus boosté ce matin que vous avez BP qui a publié ses résultats et le titre gagne un peu plus de 2% à la Bourse de Londres. Et on parlera encore du secteur énergétique demain avec Total Energy qui va publier ses résultats à 8h. Et là aussi, les résultats devraient être extraordinaires comme pour BP grâce notamment aux activités de trading. À l'inverse, dans le CAC 40, vous avez une valeur qui est sanctionnée ce matin, c'est Air Liquide. Un peu plus de 4% de baisse et pour cause, le chiffre d'affaires est légèrement inférieur aux attentes. Le groupe ne relève pas ses prévisions, il reste prudent avec aujourd'hui un titre qui a quand même pas mal performé. Il faut se souvenir qu'au début du mois d'avril, il était sur un record historique et donc le fait que le groupe ne délivre que ce qui était attendu est mal vu ce matin et le titre qui reflue légèrement en deçà des 180 euros à 179,68 €. Enfin, un dernier mot de Nexans qui gagne un peu plus de 9% dans le SBF 120. Au-delà des 149 €, le titre est sur un plus haut historique, en tout cas à quelques euros de son plus haut qui avait été touché il y a quelques mois. Chiffre d'affaires au-delà des attentes, contrairement à Air Liquide, Nexans qui fabrique des câbles est porté bien sûr par une très forte demande liée à l'intelligence artificielle et puis surtout aux énergies renouvelables.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage, comme chaque jour pour débuter cette émission, avec ce matin en plateau, Olivier Le Chevalier, directeur général de Gift Edge. Bonjour Olivier.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin. Avec vous, on va parler donc des marchés financiers, mais également de sujets un peu plus légers, hein, donc comme la pistache ou encore le chocolat de Dubaï. Juste avant, vous pouvez nous rappeler qui est Gift Edge.
Alors que fait Gift Edge? Gift Edge est une solution SaaS spécialisée pour aider les entreprises en fait à piloter leurs risques de change et leurs matières. Donc on les aide aussi bien à pricer leurs instruments de couverture qu'à suivre leurs sous-jacents, qu'à effectuer la comptabilité, leurs IFRS et la consolidation dans ce cas. Voilà.
Donc vous suivez très bien ce qui se passe sur les marchés des matières premières, des devises. Et c'est vrai que là, depuis la guerre en Iran, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, effectivement. Et après, on ne sait plus aussi comment se placer, je dirais, depuis cette guerre. Parce qu'un jour, ça monte très haut, le lendemain, ça redescend un peu. Donc il y a aussi des effets un peu contradictoires et des effets d'annonce qui sont assez difficiles à suivre, en tout cas pour les entreprises.
Voilà. Et ça bougera peut-être encore dans les prochaines prochaines heures, avec donc les banquiers centraux qui prennent la parole. Ce matin, on a eu la Banque du Japon, demain la Fed, jeudi donc la BCE. Qu'est-ce que vous attendez là de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui est quand même la plus grosse banque mondiale à prendre la parole? Avec Jerome Powell, hein, ça sera exactement sûrement sa dernière réunion demain.
Exactement. Bah, du coup, là, ils sont quand même dans un peu, enfin, ils sont coincés entre deux choses. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi voulu, au départ, ils veulent baisser les taux pour pouvoir relancer, en tout cas, la consommation, etc. Là, ils sont à peu près en étau avec la guerre en Iran. C'est-à-dire que, bah, ils vont envoyer un message contradictoire s'ils baissent les taux. Donc voilà, parce qu'ils doivent aussi, dans ces deux missions-là, ils doivent lutter contre l'inflation, Jerome Powell. Donc baisser les taux, ça ne va pas permettre de limiter l'inflation. Et donc aussi, de l'autre côté, vous avez l'énergie qui passe son temps à se renchérir. Donc effectivement, là, ils sont coincés entre dire « je relance la consommation » et je limite l'inflation. Donc là, c'est vraiment la difficulté auquel ils font face. Je pense qu'ils vont surtout annoncer qu'ils feront une baisse de taux peut-être plus tard pour soutenir. Et là, pour le moment, c'est pas l'occasion de faire de cette prise de décision. Donc aussi, avant de laisser aussi sa place pour Kevin, qui est plutôt dans quelque chose de Kevin Warsh, qui est plutôt quelqu'un qui sera plus interventionniste ou qui sera plus régulé ou qui a envie de resserrer la gestion de la Fed. Je pense que là, pour le moment, ils vont pas bouger, ils vont faire certainement un statu quo pour éviter, pour limiter quand même l'impact de l'inflation de l'énergie et éviter de trop pénaliser la consommation actuellement.
Voilà donc cette réunion qui se tient aujourd'hui et demain, et avec donc une communication qui va se tenir demain aux alentours de 20h française.
Exactement. Et du coup, on a la même cas, comme vous disiez, pour la banque japonaise, ouais, qui ne veut pas baisser de ses taux pour limiter en tout cas l'inflation. Donc du coup, ils sont aussi prêts en étau entre l'énergie qui se renchérit et puis du coup de renforcer. Eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire de renforcer leur taux pour limiter l'inflation et son impact.
C'est des sujets qui peuvent paraître assez lointains pour un auditeur, téléspectateur. Il se dit oui, les banques centrales, comment ça me concerne, etc. Mais ça a quand même un impact parce que c'est quand même ces banques centrales qui décident du prix de l'argent et donc in fine pour des prêts immobiliers, pour des prêts pour les entreprises. Et puis derrière, il y a également des mouvements de change, et vous êtes bien placé pour le savoir, qui ont là aussi un impact non négligeable pour des entreprises qui souhaitent exporter, importer. Puis on parlera du pétrole dans un instant, ça a également un effet très important,
voilà, les changes. Exactement, en fait, le taux d'intérêt impacte directement, comme vous le disiez, sur le taux d'emprunt pour les ménages, mais aussi quand vous allez prendre un instrument de couverture type un contrat à terme, effectivement, on se base sur ce taux d'intérêt. Donc plus le taux d'intérêt est élevé, et plus ça peut vous pénaliser, par exemple, si vous êtes acheteur ou vendeur, tout dépend du sens de la devise. Donc ça va se renchérir ou s'affaiblir en dépendant de vos sens. Mais du coup, c'est un impact non négligeable sur les entreprises. Donc aujourd'hui, par exemple, le taux américain est plus élevé que le taux européen. Donc quand vous achetez du dollar à terme, ça vous favorise, mais en revanche, si vous êtes vendeur, ça vous pénalise. Voilà, donc vous perdez de la marge directement.
À suivre donc la Fed, la Banque Centrale Américaine, demain soir. Il y aura également donc les GAFAM qui vont publier leurs résultats mercredi soir et jeudi soir. Pendant ce temps, les cours du pétrole continuent de progresser. On est sur des plus hauts de 3 semaines là ce matin, quasi $110 pour un baril de Brent. Exactement. Et c'est dans ce contexte que Shell a annoncé hier soir se diversifier. Ils vont investir 16 milliards de dollars pour acheter un concurrent américain. Alors, exactement, non pas dans le secteur pétrolier, mais dans le secteur du gaz, dans le gaz de schiste au Canada. C'est intéressant de voir qu'au moment où les cours des matières premières progressent, bah, on a des acteurs qui se mobilisent pour se diversifier.
Exactement. Donc, en fait, déjà, il y avait... Alors, si je permettais, je vais reprendre juste 2-3 premiers signals. C'est vrai que là, le fait qu'ils aient fermé les routes et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il y a un premier signal. C'est-à-dire que les raffineries que vous avez en Asie, elles vont couper leur production, parce qu'elles n'arrivent pas à importer en fait du pétrole actuellement. Donc ça veut dire que c'est la Corée du Sud, le Japon, la Chine et l'Inde qui commencent à couper leur production. Ensuite, deuxième signal, c'est le canal de Panama qui s'est renchéri parce que tout le monde cherche à faire transiter du pétrole le plus possible. Donc c'est pour ça que ça... Et le troisième signal, bah, c'est vrai que vous avez quand même Goldman aussi qui est dans la dynamique de dire qu'on va monter peut-être aux alentours des $120 le baril à cet effet. Et là, tombe sur Shell, où Shell, le dernier directeur en place qui est présent, le CEO Wael Sawan, en fait, qui avait été embauché déjà pour redresser Shell avait s'était séparé en fait d'activités, notamment en 2023, d'activités polluantes. Et on voit bien que là, la guerre énergétique fait qu'ils reviennent sur le devant de la scène en rachetant la société Arc Ressources. Donc quand même, ils la paient 13,6 milliards, dont les trois quarts en actions Shell. Et en plus, ils récupèrent la dette de cette société pour 2,8 milliards. Et en fait, ils vont payer une prime aussi de 20% pour le cours d'Arc. Ce qui leur apporte un bénéfice, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer 370 000 barils par jour. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va leur permettre d'augmenter leur production de 1 à 4% sur l'année. Effectivement, ils sont plus dans les activités en fait, de gaz, de schiste, etc. Mais en fait, ils sont là aussi pour montrer qu'ils viennent sécuriser l'énergie. Et donc, d'où ce retournement aussi de dire, bah, avant, c'était pas très intéressant et pas très sexy de travailler sur les produits pétroliers, qui n'était pas EFG, enfin, dans cette dynamique qui était polluante. Et donc, forcément, là, on voit bien qu'ils ont pris la décision de racheter cette société pour se réinstaller dans le paysage.
Voilà donc pour Shell qu'il faut suivre ce matin à la Bourse de Londres. Dans 10 minutes, Gilles Santacreux sera avec nous depuis boursicoté.com. Il nous donnera un petit peu son sentiment sur l'état des marchés actuellement. En tout cas, vous, aujourd'hui, Olivier Le Chevalier, vous regardez le VIX. C'est l'indice de la peur hein, aux États-Unis sur le S&P 500.
Oui.
Quand vous le voyez, ce VIX, qui est sur des niveaux plutôt bas, hein, c'est vrai, il ne montre pas des signes de panique, qu'est-ce que vous vous dites?
En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que ça fait trois semaines en fait, qu'il se calme, qu'il baisse. En fait, comme vous disiez, c'est l'indice de la peur qui est lié aux actions américaines. C'est-à-dire que si... quand les investisseurs sont stressés, nerveux, en fait, vous avez le VIX qui monte. Mais quand il descend, c'est-à-dire qu'il est en forte baisse, et signifie que les marchés actions sont dans une phase relative de sérénité. Donc, et pourtant, malgré la guerre en Iran. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous allez plutôt aller vous retourner vers des devises, hein, parce qu'en fait, quand vous avez, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les devises à fort bêta. Non, ça, c'est ce que ça vous parle, toutes ces devises.
C'est en fonction de la volatilité.
Exactement, c'est en fonction de la volatilité. En fait, les devises qui ont un bêta élevé, c'est parce qu'elles sont corrélées, par exemple, à des matières premières. Donc, vous avez en ce moment l'AUD, le dollar canadien, etc. Donc, en fait, les investisseurs vont se retourner vers cet appétit au risque, peut-être de miser sur ces devises qui sont liées à des matières premières actuellement. D'où, en fait, cet effet où le VIX a tendance à se stabiliser et à redescendre sur des niveaux plus intéressants et qui laissent, je dirais, la volatilité autour des actions américaines un peu plus tranquille. Donc, en tout cas, voilà, c'est quand le VIX baisse, voilà, comment ça se passe, ça veut dire que les investisseurs quittent les valeurs refuge et se repositionnent sur ces devises à fort bêta qui peuvent être l'AUD, le CAD, etc., qui apportent et qui sont liées et corrélées aux matières premières actuelles.
Et pour nous, en tant qu'Européens, ça a quoi comme impact sur l'euro ? On a vu l'euro se détendre un petit peu là, enfin rendre quelques points face au dollar là depuis une semaine ou deux.
Alors en fait l'euro est corrélé quand même, au dollar évidemment. Mais c'est à dire que déjà le premier point c'est quand le baril se renchérit, le baril de Brent là vous avez dit on passe de 100 à 102. En fait il a un impact immédiat sur le dollar. C'est à dire que le dollar en fait s'affaiblit en même temps. Donc là pour nous, effectivement plus le Brent va monter et plus le dollar aussi peut potentiellement s'affaiblir. Donc quand vous êtes acheteur de Brent, vous allez regarder le cours du dollar versus le cours du Brent et du coup on pourra profiter, on n'aura pas exactement la même hausse en termes de pente, mais c'est-à-dire que pour nous actuellement, le dollar s'est affaibli. Donc là, ce qu'on voit entre une période sur ces trois derniers mois, c'est-à-dire qu'on a quand même fait le yo-yo entre du 1,15 et du 1,20. Donc quand vous êtes dans le cadre d'une société ou d'un investisseur qui achète des actions en dollars, soit ça peut vous pénaliser, ou soit ça peut vous aider aussi en termes de sortie. Mais en tout cas, ça va avoir un impact, au fait, un peu négatif quand même sur votre gestion quand vous travaillez en devise, effectivement.
On est à 1,17 là ce matin, 1,1702 sur cette devise euro-dollar. Pour vous, c'est un bon niveau. Comment vous la voyez? Comment aujourd'hui vous la percevez quand vous échangez avec vos clients qui peuvent être des industriels ou des financiers?
Là, on est. Je dirais qu'on vient quand même des niveaux où on était en dessous des 1,10 en début d'année. Et donc, effectivement, pour une entreprise qui est vendeuse, elle aurait aimé vendre tous ses dollars, tout son chiffre d'affaires à 1,10. Et là, effectivement, sa difficulté, c'est de savoir se positionner c'est quand il faut prendre les bonnes actions, parce qu'en fait, dire je vais prendre des couvertures à terme, c'est génial, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la vie du quotidien. Est-ce qu'elle continue à vendre? Est-ce que, forcément, ça a un impact direct sur les transporteurs, le fait que il n'y ait pas de pétrole, le détroit d'Ormuz soit bloqué. Donc, ça déstabilise aussi le marché du fret, ça déstabilise aussi vos achats, vos ventes. Donc, en fait, vous êtes dans ces difficultés. Après, quand vous êtes là dans la partie achat, parce que vous achetez des produits en devise, vous dites que vous êtes ça vous bénéficie, parce que du coup, vous venez d'un taux qui était super bas, donc vous allez mieux acheter à l'international. Et en plus, avec l'effet, comme on disait tout à l'heure, des taux d'intérêt, en plus, vous achetez en fait votre dollar encore un petit peu moins cher. Il y a un effet, en tout cas, bénéfique. Donc la difficulté aujourd'hui se situe, comme on l'a pu le voir, sur les exportateurs français qui vendent en devises. On a pu le voir notamment sur des groupes comme Pernod Ricard, tous ceux qui sont à l'international, le luxe, qui pâtissent en fait aussi de ces marges qui sont reniées par ces effets de change. Et donc vous avez deux mondes, vous avez aussi là où la direction financière doit rassurer les marchés et dire on va faire de la progression, et puis vous avez aussi ce frein de marché qui peut venir vous ralentir dans votre progression, dans la progression de vos résultats.
Et pour ça, on a des entreprises qui se couvrent néanmoins.
Oui, toutes les entreprises se couvrent, mais elles le font de manière liée à des
jamais
éléments
à 100%.
Ouais. Pas à 100% et toujours liées à des éléments tangibles.
On va terminer par les cours de la pistache, parce que c'est vrai qu'on est peut-être sur un sujet qui est plus amusant, un peu plus parlant pour nos auditeurs téléspectateurs qui ont peut-être remarqué que les cours de la pistache depuis le début de ce conflit en Iran, ont très largement progressé. Et puis alors, on se souvient qu'il y avait une mode, c'était l'an passé ou il y a deux ans, autour du chocolat Dubaï. Le chocolat de Dubaï, là aussi, c'est l'une des victimes un petit peu de ces prix de la pistache, puisque forcément, on se retrouve parfois sur des pénuries.
Exactement. Alors, ce qui était intéressant, c'est parce que sur DevTech, on fait aussi tout ce qui est agroalimentaire. Donc, en fait, on suit différentes matières premières. Donc, un coup, ça peut être le jus d'orange aussi, que je vous recommande de suivre régulièrement, ou effectivement le cacao, le chocolat, c'est tout ça. Et là, en fait, la pistache, ça paraît pas, mais c'est l'Iran est le deuxième exportateur mondial, en fait, de ça. Et depuis le début du conflit, c'est complètement bloqué. Donc, maintenant, il y a que les Américains qui produisent en masse de la pistache. Et en fait, les cours ont quasiment pris 50%. Donc, on est passé à 4,57, je crois, dollars la livre. Et donc, du coup, en fait, il faut savoir que l'Iran, quand même, exportait sa pistache en Europe, en Asie et sur d'autres pays. Donc là, il n'y a plus que les US qui peuvent exporter. Et donc, forcément, le Dubai Chocolate en subit cette pénurie. Voilà. Donc,
mais c'est pas la seule matière première. C'est vrai que l'année dernière, on avait parlé des cours du café. Enfin, ça reste, c'est le tas de plein de matières premières agricoles qui ont des volatilités extrêmes.
Tout à fait. Donc, en tout cas, en général, quand on a parlé de toutes les matières passées, cacao, jus d'orange, etc., l'année passée, c'était quand même lié aux pluviométries, aux maladies qu'on retrouvait en fait sur les plantes ou sur les arbres. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait une telle augmentation et l'effet aussi du changement climatique. Donc là, ça s'est calmé cette année, d'où c'est pour ça les cours, par exemple, du cacao sont passés de 12 à 2500 livres, la tonne. Donc effectivement, tout ça était lié quand même relativement aux matières premières. Au dérèglement climatique, alors que là, pour le détroit, c'est lié à la guerre en Iran, où on ne peut plus laisser passer ces pistaches, comme vous pouvez le voir aussi par rapport à l'agriculture, tout ce qui est engrais, où ça commence à créer des stress, alors que le marché du blé ne remonte pas non plus dès qu'il y a des annonces. Donc tout dépendra aussi des résultats des différents pays sur les différentes cultures.
Et donc on rappelle, l'Iran c'est le deuxième producteur mondial de pistaches. Et donc là on a des cours qui sont sur des plus hauts de 8 ans.
Exactement. C'est le plus haut depuis 2018.
Avec une progression de 50%.
Oui, exactement. Qui atteignent, comme je disais tout à l'heure, 4,57 dollars la livre.
Voilà. Ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Comme quoi, il n'y a pas que le pétrole à suivre de jour en jour pour.
Non, on parlera du bitume.
Voir
si
l'impact.
Vous voulez.
Ah oui, le bitume. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois. Merci beaucoup, Olivier Le Chevalier, de nous avoir accompagnés ce matin pour dresser un petit peu ces grandes actualités, les conséquences de ce conflit au Moyen-Orient, que ce soit sur les matières premières agricoles, bien sûr, comme la pistache, mais aussi, bien sûr, le pétrole. On en parlait en préambule, qui tutoie les 110 dollars ce matin. 110 dollars sur le pétrole, mais le marché parisien résiste plutôt bien. Vous verrez cela dans un instant avec Gilles Santacreux qui nous accompagnera depuis boursicoté.com. Et puis, dans une dizaine de minutes, Hervé Marquez, dirigeant de HM Patrimoine Conseil, nous donnera ses conseils pour vous, auditeurs, téléspectateurs. Comment aujourd'hui investir? Quels sont les pièges à connaître? Quelle est la bonne méthode? Il vous donnera sa vision dans une dizaine de minutes. On voit ça dans un instant. À tout de suite.
pour investir. Arbitrage.
Et l'arbitrage en ce mardi 28 avril, c'est avec Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Bonjour Gilles Santacreux, merci de nous accorder quelques minutes ce matin. La séance à la Bourse de Paris, comme on l'a vu en ce début d'émission, est vraiment calme. C'est vrai qu'on a des indices qui attendent avec beaucoup d'impatience les GAFAM, les banques centrales. Et donc on a tendance à assez poussif, plus 0,2%, 8162 points pour le CAC 40.
Oui, tout à fait. On est vraiment dans une phase d'attente depuis la fin de la semaine dernière. On se positionne ici sur une phase de stabilisation qui suit une phase de consolidation. Donc, pour l'instant, on ne remet pas en cause la dynamique haussière qui reste donc la tendance de fond suite à l'impulsion que nous avons eue depuis la fin du mois de mars. Mais on attend, je dirais, des catalyseurs pour justement confirmer la suite de ce mouvement. Le point marquant, là, depuis quelques jours, c'est le gap qui s'était ouvert le 8 avril, qui avait permis le franchissement d'une zone identifiée à 8092 points. Tant que l'on se maintient au-dessus de cette zone, donc en gros 8080-8100 points, eh bien on est vraiment sur cette phase de stabilisation qui suit la consolidation avec donc une perspective qui reste haussière. C'est si on cassait cette zone qui représente en plus un retracement de Fibonacci à 38,2% de l'intégralité de la dynamique haussière, qu'on aurait des signaux d'affaiblissement, voire même de potentiel retournement si on poursuivait le mouvement baissier. Donc là, pour l'instant, on se maintient. On a un mouvement effectivement de prudence juste avant toutes les échéances que nous avons cette semaine, vous l'avez dit, les résultats des GAFAM, nous allons aussi avoir beaucoup de banques centrales qui vont communiquer, comme cette nuit la Banque Centrale du Japon, sur l'évolution de leur taux d'intérêt. Toutes ces échéances font que nous avons une extrême prudence de la part des investisseurs que l'on ressent actuellement sur le marché. On est un petit peu drivé par la hausse du pétrole. On le voit notamment sur la variation de Total Energy ce matin. Et grossièrement, eh bien, tout va se jouer dans les prochains jours dans un contexte qui reste tout de même tendu, puisqu'on a du mal à repartir en Europe. Là où on voit du côté des États-Unis, on est sur des records, que ce soit sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq.
Le Nasdaq qui a quand même pris quasiment 20% en ligne droite depuis la fin du mois de mars. C'est quand même impressionnant ce rallye sur cet indice technologique mené bien sûr par Nvidia, 5000 milliards de capitalisation boursière hier. Et puis on l'a encore vu ces dernières heures, Amazon a quand même pris 30% en l'espace de 3 semaines. Comment vous regardez, vous, ce différentiel entre l'Europe, alors certes qui est pas très loin de ses records, 4-5%, et puis les États-Unis qui caracolent en tête?
Ben, c'est là que l'on comprend que la pression qui est exercée par ce qui se passe au Moyen-Orient est plus ressentie du côté de l'Europe que du côté des États-Unis. On le voit aussi sur les cours du pétrole. On a un Brent qui est beaucoup plus sensible que le WTI. Donc, ce Brent qui tutoie aujourd'hui des valeurs relativement fortes met une pression sur les indices français. Et européen, pardon. On a donc ce Brent qui, s'il cassait la zone 110-111 $ le baril, eh bien, mettrait un peu plus de pression, alors même que nous avons puisque ça pourrait relancer l'inflation, alors même que nous avons des communications attendues de plusieurs banques centrales. Donc, c'est un petit peu ce qui ralentit l'Europe par rapport aux États-Unis. Et puis, les États-Unis, effectivement, vous l'avez dit, sont portés par les valeurs techno qui sont beaucoup moins sensibles, justement, à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et cela explique un petit peu ce différentiel de performance que nous avons actuellement entre les États-Unis et l'Europe. Je vous entendais parler tout à l'heure du VIX, sachant qu'il baissait effectivement, on est toujours autour des 19 points. Il faut quand même relativiser, en début d'année, on avait des indices américains qui étaient inférieurs et un VIX qui oscillait entre 13 et 15 points. C'est-à-dire que le fait d'avoir des indices américains qui marquent des records avec un VIX qui reste entre 18 et 20 points, c'est pas anodin, c'est quand même élevé pour des records sur les indices américains. Ça montre que même si ces indices montent, on a tout de même un peu plus d'inquiétude que ce que nous avions en début d'année, et cela pourrait nous annoncer un risque de volatilité si les choses, par exemple, se passaient mal au niveau des négociations en Iran. Il ne faut pas le perdre de vue, puisque on a quand même ici des niveaux qui sont, assez sensibles, et donc c'est à surveiller aussi pour la suite.
Dans ce contexte, Gilles Santacreux chez boursicoté.com, qu'est-ce qui vous intéresse en termes d'indices, de sous-jacents, je sais pas, de matières premières? Qu'est-ce que vous faites dans ce contexte où y a beaucoup d'attentisme, comme vous l'avez souligné, mais aussi des plus hauts à Wall Street?
Alors, moi, ce que je fais beaucoup actuellement, c'est de l'arbitrage entre justement le S&P 500 et le VIX. Comme je viens de vous l'expliquer, on est monté sur le S&P 500, on est monté sur le VIX depuis le début de l'année. Ce qui veut dire que si vous avez une stratégie, je dirais, de croissance couverte où vous achetez des valeurs de l'indice et que vous couvrez avec du VIX, ben en fait, vous avez gagné donc sur le marché américain puisque les valeurs ont monté et vous avez gagné aussi sur la couverture puisqu'on est passé sur le VIX donc de 13 à environ 20. Alors même si on a un petit peu un effet d'érosion lié à la valeur temps, on a tout de même une stratégie qui fonctionne plutôt bien. Ce genre de stratégie ne fonctionne jamais longtemps, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des changements prochainement. Grossièrement, en ce moment, je surveille beaucoup les cours du pétrole. On l'a vu sur les métaux précieux qui ont flambé en fin d'année dernière. Ça s'est bien calmé. On consolide encore un petit peu aujourd'hui. Et c'est vraiment les cours du pétrole qui drivent un petit peu le marché actuellement. Donc, c'est sur ce côté américain qui monte alors que les indices de la peur montent aussi. Et sur les matières premières donc liées au pétrole que je surveille actuellement et que j'arbitre mes interventions.
Merci beaucoup Gilles Santacreux de nous avoir accompagnés ce matin, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com pour faire un point sur la séance en cours et donc ce CAC 40 qui progresse de 0,18% à 8156 points avec donc Total Energy qui gagne un peu plus d'1%, le baril de pétrole qui est sur des plus hauts de 3 semaines et puis à l'inverse donc Air Liquide qui perd quasi 3% après la publication ce matin de son chiffre d'affaires. Très courte pause, on se retrouve dans un instant avec Olivier Marquez, nous parlerons donc des pièges à éviter quand on souhaite investir en bourse, mais pas seulement. Et puis enfin, en dernière partie d'émission, il sera question d'art avec les équipes de Christie's France qui nous accompagneront et plus particulièrement Agathe de Bazin pour revenir notamment sur une vente qui va se tenir dans les prochaines semaines du côté de Christie's à Paris. Une vente qui sera dédiée au mobilier de design. Est-ce qu'aujourd'hui, le mobilier de design, en plus d'ameubler un petit peu votre logement, peut être une source de diversification pour investir ? Réponse à partir de 11h45. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
La boîte à outils avec Hervé Marquez ce matin en plateau, dirigeant de HM Patrimoine Conseil. Bonjour Hervé.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin. Alors on va s'adresser à un public très large. On va donner un petit peu les clés pour bien investir, les erreurs à pas faire selon vous, et puis surtout une remontée de terrain de votre cabinet de conseil, donc HM Patrimoine Conseil, afin d'un petit peu s'y retrouver. Aujourd'hui, vous dites attention aux mauvaises habitudes. C'est vrai que parfois on a envie d'investir parce que on a un copain, un cousin, quelqu'un de la famille qui a dit « Ah tiens, t'as vu ceci, cela ?» Et vous dites « Bon, attention, c'est bien, mais recoupez vos sources, faites vos recherches. »
C'est vrai, il y a plusieurs. Alors, je vais rebondir sur cet exemple. Le bon conseil qu'on entend lors d'une réunion de famille ou avec un ami dont on admire la réussite, par exemple, et on a envie de dupliquer sa recette. Et puis, on s'approprie un investissement qui ne nous correspond pas en termes de risque. Par exemple, ce fameux ami ou copain est très résistant au stress alors qu'on ne l'est pas. Et on se retrouve avec un investissement qu'on ne va pas réussir émotionnellement à gérer. Et donc, finalement, la démarche va être contre-productive. À la première correction de marché, on va vendre. Et finalement, ça rentre parmi les trois profils que je juge problématiques, celui de copier un investissement ou un investisseur qui ne correspond pas au profil.
Vraiment. Parce que ça dépend de son âge, de son horizon d'investissement. Est-ce qu'on a un projet, de résidence principale ou pas? Enfin, en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte.
Exactement. Lors de toute entrée en relation, on fait ce qu'on appelle un questionnaire profil investisseur. Quel type d'investisseur êtes-vous? La tolérance au risque, l'horizon d'investissement, notamment la situation personnelle et familiale. Tout ça rentre en compte. Et picorer un peu les informations au compte-gouttes telles que suggérées par les moteurs de recherche, c'est un des premiers écueils dans lesquels il faut pas tomber.
Autre exemple à éviter, ou en tout cas à connaître.
Alors ça, c'est un sujet dont vous faites partie, BFM Business, c'est la surinformation, l'infobésité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations à la télé, sur les réseaux sociaux, et on a tellement d'informations, les investisseurs en devenir ont tellement d'informations, ils finissent par être un peu tétanisés, beaucoup d'informations contradictoires leur parviennent aux oreilles. Est-ce que je dois investir en Chine? D'un côté, j'entends oui, parce que les US commencent à être un peu incertains, et de l'autre, la Chine, économie administrée par le parti communiste, qui peut mettre des dirigeants en prison du jour au lendemain, donc non, restez à l'écart de la Chine. Qui croire? On ne sait plus. Et résultat, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Et résultat, on se retrouve avec, entre les comptes courants, les livrets et les fonds euros, avec 3 000 milliards d'euros qui dorment, ou du moins qui ne sont pas réellement au travail.
Dans tous les cas, la clé, c'est la diversification. Quand on se lance dans un placement, on met pas tout sur le même actif, sur le même placement, sur la même enveloppe. Et c'est le cas, vous parlez de zones géographiques, c'est la même chose.
Voilà, on diversifie les zones géographiques, les secteurs d'activité, les devises également. Et Étienne, ce conseil s'applique à la fois aux investisseurs, mais à la fois aux conseillers en gestion de patrimoine. Parce que parfois, on a des investissements un peu doudou qu'on aime bien conseiller. Et voilà, il ne faut pas que le biais du conseiller devienne le biais de l'investisseur final. Il faut vraiment aussi s'appliquer ça à soi-même.
Et en même temps, pas trop se diversifier non plus. C'est vrai que c'est un juste milieu à trouver. Trop se diversifier, parfois, ça amène à neutraliser la performance.
Oui, voilà, pareil, si vous avez 1000, 2000 euros à investir, n'allez pas saupoudrer dans toutes les enveloppes, ça ne servira à rien. Autant faire ça dans une enveloppe qu'on peut tracer, qu'on peut s'approprier. Ouais, effectivement, c'est un point que...
Alors, les clubs dits l'immobilier, les clubs d'investisseurs, on voit plus que ça aujourd'hui dans les stories sur les réseaux sociaux.
Voilà.
Avec des réunions, des webconférences de partout. Qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui, sans faire des généralités?
Voilà, pareil. Alors, il y a des termes que vous avez évoqués, clubs dits l'immobilier et autres, qui sonnent bien à l'oreille. Holding, c'est un peu la nouvelle Rolex. Donc, il faut en avoir une pour se donner un peu de consistance d'un point de vue social, mais est-ce que c'est réellement approprié? Pas sûr. Un club deal immobilier, il y a eu beaucoup de clients que je suis ou que j'espère suivre qui ont investi dans ces supports mono-actifs, là, parfois. Et quand on se concentre sur un seul actif, on ne répartit pas le risque. Et si, je sais pas, s'il y a un arrêté de péril sur un immeuble dans le carré d'or parisien et que le projet ne voit pas le jour, les 100 000 euros que vous avez investis peuvent devenir zéro. Donc voilà, attention à ça aussi, à ces buzzwords, à ces termes à la mode.
Et comment on repère un bon club? C'est pas évident aujourd'hui, sachant que vous avez beaucoup de clubs qui se sont constitués ces derniers mois ou ces dernières années, avec assez peu de track record, des communications qui sont très bien faites. Comment on arrive à tirer le bon grain?
C'est vrai, alors ça chacun après sa tolérance au risque. C'est un peu comme les SCPI, essayez de privilégier celles qui ont quand même un track record solide. Et si vous voulez, pour une infime partie, céder à, pas un effet de mode, mais à un acteur plus récent, allez-y, mais n'allez pas mettre tout votre patrimoine sur un acteur dont la communication est bien faite, qui a des rendements intéressants, mais qui a un track record un peu incertain. Pour moi, c'est trop risqué.
Autre exemple ou de cas que vous pouvez illustrer par rapport à vos retours de terrain?
Les cryptos. Bah, par exemple, qui sait expliquer pourquoi les cryptos sont passés de 66 à 76 000 dollars ce dernier mois? Peu de personnes. Tout le monde n'est pas hacheur ou un expert en crypto, par exemple, ou n'écoute pas BFM. Donc, c'est quand même très dur. Et un Français sur trois envisage d'acquérir des cryptos en 2025. Donc, je ne connais pas la SAT pour 2026, mais un tiers des Français envisageraient d'investir dans un actif et la plupart ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de cet actif. Donc avant de s'intéresser au haut de la pyramide patrimoniale, les 5-10% du patrimoine qu'on pourrait investir dans des actifs dits exotiques, concentrez-vous sur la consolidation de la base, épargne de précaution, fonds euros, livrets, PEA, compte titre, et après... Voilà, le haut de la pyramide, on laisse pour plus tard.
Ça, c'est la fameuse pyramide. Hein. Il faut imaginer en fait une pyramide avec plusieurs blocs que vous empilez. Exactement. Alors, on commence par quoi?
On commence par l'épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses, 3 à 6 mois de salaire, c'est selon. Si vous êtes indépendant ou chef d'entreprise, peut-être pousser vers les 12 mois d'épargne de précaution. Donc, cette épargne de précaution est logée dans des livrets, voilà, qui rapportent certes peu, mais au moins c'est sécurisé. Et c'est de l'argent très liquide. Ça, c'est la base de la pyramide. Ensuite, deuxième étage, le fonds euro de l'assurance vie, par exemple. Donc là, on est sur quelque chose de légèrement moins liquide, qui rapportait en moyenne en 2025 du 2,6%. Ça reste sécure, c'est très liquide et ça travaille un petit peu.
Parfois plus, hein. En ce moment, on voit pas mal de bonus sur des fonds d'assurance, etc. On peut capter du rendement sur cette classe.
On peut capter du rendement, effectivement, mais c'est pas la vertu principale. Par des opérations promotionnelles ponctuelles, on peut. Voilà. Et après, le troisième étage de la fusée, vous le trouvez selon les pyramides de manière concomitante, l'immobilier et les actions. Voilà. Et donc ça, c'est pour dès qu'on a plus de 5 ans, 5 à 8 ans ou plus d'horizon d'investissement, commencer à s'intéresser à ces classes d'actifs, idéalement en se faisant accompagner d'un conseil. Voilà, je rappelle une stat, hein. Sur les trois dernières années, 93% des personnes qui ont reçu un conseil en investissement en ont été satisfaites. Pourquoi s'en priver ? Voilà.
Un conseil, donc ça peut être un conseil d'un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine.
Exactement.
De son réseau bancaire aussi, parfois. Comment on peut se faire bien accompagner ? Parce que c'est vrai que parfois, en fonction de sa situation ou de son montant, on se dit, je vais pas aller voir un conseiller pour une somme que l'on peut trouver modique ou restreinte, ou on se dit, ça, c'est pas adapté à mon besoin. Comment on pousse la porte ? Comment on choisit aujourd'hui son conseil ?
Alors, Étienne, je vais dénigrer personne. Hein. Oui. Je challenger les acteurs. Allez voir votre banque, allez voir un CGP, par exemple. Et comparer. Il y a aussi une approche humaine qui est importante. Hein. Après, il y a le danger de s'amouracher d'un... Je parle financièrement parlant d'un conseiller en banque qui, peut-être, dans 2-3 ans, ne sera plus là. Généralement, le CGP vous suit tout au long de votre vie.
Voilà, des clés d'investissement pour bien épargner. En tout cas, les conseils que vous pouvez donner grâce à vos retours de terrain. Hervé Marquet, je rappelle que vous êtes dirigeant de HM Patrimoine Conseil. 11h38 sur BFM Business. Tout de suite, on va vous donner un autre conseil avec les équipes de Meilleur Tout.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Le placement à suivre. Et alors là, si on suit cette pyramide, on est dans le haut de la pyramide ce matin avec Dorian Abadi, qui est responsable bourse privée de Meilleur Taux. Bonjour Dorian Abadi.
Bonjour Étienne.
Merci de nous suivre ce matin. Dans une optique de diversification, vous nous dites pourquoi pas regarder les actions japonaises.
Exactement. Dans une optique de diversification, c'est vraiment le maître mot, puisque ça n'est pas du tout intuitif, mais la bourse japonaise a battu de nouveaux records historiques ces tout derniers jours. On a le principal indice qui s'appelle le Nikkei, qui est désormais en hausse de 19, pratiquement 20% hein, depuis le début de l'année, et d'un peu plus de 100% sur 3 ans. Alors ça n'est pas intuitif justement parce que peu après le déclenchement de la guerre en Iran, on a quand même une bourse japonaise qui a dévissé de 14%, précisément parce que le Japon est très fortement dépendant de ses importations d'énergie. Donc on a eu ce rebond très marqué depuis la fin mars. Hein. Ça a été matérialisé en l'espace de 3-4 semaines seulement. Et concrètement, en fait, les investisseurs font le pari que le conflit va prochainement se résoudre. Alors c'est un pari très optimiste, hein, évidemment, mais il est globalement partagé au niveau mondial. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la bourse japonaise a fortement rebondi, et singulièrement au niveau des valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs et à l'automatisation.
Dans ce contexte, vous nous dites pourquoi pas regarder un ETF, hein. C'est vrai que c'est peut-être le plus facile. Alors ça peut être l'ETF que vous allez nous donner comme un fonds de gestion active, hein. Il y a plein de possibilités pour investir sur ces actions japonaises. En l'occurrence, ce matin, focus sur Amundi Japan Topics UCITS ETF.
Exactement. Alors c'est un ETF d'autant plus intéressant parce qu'il est à la fois éligible dans le compte-titres ordinaire, certaines assurances-vie, et puis il a également une version éligible au PEA. Alors ça n'est pas du tout intuitif parce que traditionnellement, on se dit que dans le PEA, seules les actions qui ont leur siège social en Europe sont éligibles. En réalité, on a de plus en plus d'ETF, sans rentrer trop dans les détails techniques, qui permettent au sein du PEA de s'exposer à des marchés internationaux, notamment américains ou japonais. On a également une version de cet ETF qui est hedgée, c'est-à-dire couvert contre le risque de change, parce que pour un investisseur français, en fait, il faut aussi tenir compte, quand on s'expose sur des valeurs américaines ou japonaises, de ce fameux risque de change, en l'occurrence entre l'euro et le yen. Pour le dire autrement, en fait, une hausse des actions japonaises peut être en partie effacée si le yen baisse face à l'euro. On en a eu un parfait exemple l'an dernier côté américain, puisque la forte baisse du dollar provoquée par la politique de Donald Trump a en grande partie effacé les gains sur les indices américains pour les investisseurs français et européens qui ne s'étaient pas couverts. Donc on a cet ETF effectivement qui est particulièrement pertinent. Alors, il ne s'expose pas justement sur le Nikkei, mais sur le Topix. Il faut distinguer un petit peu les deux. Vous avez côté japonais en fait deux grands indices boursiers. Le Nikkei qui suit 225 grandes actions, surtout des valeurs technologiques, disons. Et puis le Topix qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, il est composé de 2000 entreprises, mais à terme, il ne sera composé plus que de 1200 entreprises parce que il y a une réforme en cours. Et le but du jeu du Topix, disons, c'est d'être beaucoup plus représentatif de l'économie nippone. Et là aussi, donc, on a des performances assez exceptionnelles, mais il faut bien sûr rappeler que ce type de solutions sont particulièrement volatiles, hein, parce qu'on l'a vu ces dernières semaines avec la guerre en Iran. On a une bourse japonaise qui a fait moins 14 et désormais plus 20. Donc ça n'est pas réservé à tous les types d'investisseurs, et concrètement c'est surtout pour les plus riscophiles, avec pourquoi pas une logique de versement programmé, si on veut lisser ses points d'entrée et son risque sur plusieurs mois, plusieurs années.
On est bien sûr dans une optique de diversification, avec aujourd'hui un ETF qui est exposé typiquement à Mitsubishi Financial, c'est la plus forte ligne, plus 3%, suivi de Toyota, de Hitachi, on retrouve du SoftBank, du Sony ou encore du Tokyo Electron. Attention aux effets change, hein. Certes, ça gagne plus de 8% depuis le début de l'année, cet ETF Amundi Japan Topics UCITS, mais on le voit encore ce matin avec la Banque Centrale du Japon, on peut avoir des mouvements sur le Yen et forcément ça affecte la performance, Dorian Abadi.
Absolument, ça affecte la performance, c'est une bourse particulièrement volatile, alors d'autant que, encore une fois, on a ce risque de change au-delà de la variation propre et stricte des actions Nippon. Donc on est bien sûr sur un investissement de long terme. Alors pour notre part, au sein de notre gestion pilotée, on est relativement prudent, c'est-à-dire que nous sommes exposés aux alentours de 3% sur le Japon, et disons que pour un profil encore un peu plus audacieux, riscophile, on pourrait monter jusqu'à 5% au sein d'une allocation déjà très bien diversifiée. Le but ici étant évidemment de travailler la diversification du portefeuille, de s'exposer à ce marché qui reste très liquide et très très internationalisé, hein, dans le sens où voilà, l'économie japonaise, la troisième plus importante au niveau mondial, est extrêmement tournée vers le commerce mondial et vers ses exports. Donc voilà, on a un sujet volatile, intéressant sur le long terme, que l'on peut travailler avec les versements programmés à nouveau, et en gardant à l'esprit surtout la version hedgée, la version couverte contre ce risque de change, puisque là on se rapproche vraiment des performances que je citais en tout début d'intervention, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 10-11% depuis le début de l'année et 123% sur 5 ans, 105 sur 3 ans.
Merci beaucoup Dorian Abadi pour cet éclairage ce matin sur les actions japonaises avec l'illustration de cette ETF Amundi Japan Topics UCITS ETF Euro qui gagne donc un peu plus de 8% depuis le début de l'année. Un panier qui est exposé donc à différents secteurs, que ce soit sur les biens de consommation, la finance ou encore l'industrie. Très courte pause, on se retrouve dans un instant. Nous parlerons d'un placement un peu plus plaisir avec ce matin un focus avec les équipes de Christie's sur le marché du design.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Le coffre-fort ce matin avec Agathe de Bazin, directrice du département design de Christie's France. Bonjour Agathe de Bazin.
Bonjour.
Merci de nous accompagner pour faire un focus ce matin sur le marché du mobilier de design. Dans un instant, vous allez nous parler de l'une des collections qui sera visible chez vous à Paris dans les prochaines semaines, puisqu'il y aura une vente aux enchères à la fin du mois de mai. Juste avant, c'est quoi le marché du design? On parle bien sûr du marché de luxe, on est sur des biens qui valent plusieurs centaines ou milliers d'euros.
Absolument. Alors, le marché du design, c'est un énorme marché, en réalité. Et on est vraiment à la croisée de l'objet utilitaire et de l'objet d'art. C'est-à-dire que ce qu'on présente en vente, ce sont des objets qui ont une fonction, mais dont l'intérêt est niché finalement au-dessus de cette fonction, dans leur qualité technique, artisanale, dans l'originalité de leur dessin. Et elles dépassent finalement leur fonction utilitaire pour devenir des œuvres d'art. Donc c'est un marché qui est immense et qui concerne finalement et qui peut concerner beaucoup d'objets du quotidien, entre guillemets, et aller bien au-delà.
Alors quand on parle de mobilier de design, on est sur quelle tranche en termes de production les premiers biens de design ont été faits quand? Il faut remonter à quand en termes de catégorie, si on est un peu sur une frise chronologique?
Alors, aujourd'hui, en tout cas, nous, chez Christie's, sous cette entité design, on présente des œuvres qui ont été créées au XXe et au XXIe siècle, en réalité, puisqu'on présente des œuvres très contemporaines de manière assez fréquente. Et donc, on commence vraiment aux sources du XXe siècle, voire à la toute fin du XIXe, pour quelques exceptions. Alors après, il y a des conflits autour de qu'est-ce que le design exactement. Mais voilà, là, c'est plus ce que nous, on présente en vente. Ça va être des œuvres qui sont créées tout au long du siècle et du siècle actuel.
Avec différents mouvements, ça peut être de l'art déco, du design contemporain, du modernisme, enfin, ça englobe beaucoup de choses au final.
Exactement, et c'est pour ça que c'est très large, donc c'est à la fois large en termes de courants, et vous aviez raison, là vous parlez de courants qui sont parmi les plus connus, l'art déco évidemment, une section absolument merveilleuse qu'on a le plaisir de vendre très fréquemment. On parle aussi de design des années 50 et des années 60, qui est particulièrement important pour la France, jusqu'à la production très contemporaine avec des œuvres qui parfois ont été créés il y a moins de 10 ans.
Ah oui, donc c'est vrai qu'on est vraiment sur une échelle très large. Alors ça peut aussi bien concerner des meubles, des luminaires, des sculptures. Enfin, là aussi, en fait, cet ameublement du design, ce mobilier de design, ça englobe beaucoup de choses.
Exactement, donc vraiment, on va dire, la partie immobilier qui est très claire, et donc on pense à des fauteuils, Jean Royer, les ours polaires, etc. Mais ça va aller jusque dans des choses très différentes, un très beau vase, une très belle lampe, et effectivement parfois on touche même jusqu'à la sculpture qui va être à la croisée finalement de l'objet utilitaire, de l'objet d'art, etc.
Alors Agathe de Bazin, vous êtes directrice du département de design de Christie's. J'imagine que souvent il y a des gens, ils viennent vous voir et disent mais comment je peux savoir si ce que j'ai chez moi c'est une œuvre d'art ou un objet utilitaire, est-ce que ça a de la valeur? Comment aujourd'hui vous arrivez à leur répondre, sachant que du mobilier il y a des millions de pièces qui ont été produites?
Absolument. Et donc toute la question, c'est de comprendre qu'est-ce qui va faire l'importance, qu'est-ce qui va faire l'intérêt, en tout cas pour ces objets. Donc vous avez raison, c'est un métier d'expert, de spécialiste. On est absolument ravis, nous, de recevoir des demandes, quelles qu'elles soient, et d'accompagner du coup des particuliers à comprendre ce qui différencie juste un objet fonctionnel, un objet utilitaire d'un objet d'art. Et les grandes lignes, ça va être, j'en parlais un petit peu plus tôt, alors il y a une qualité technique, artistique, artisanale parfois, qui va être importante. Il va y avoir donc ce dessin, cette réflexion autour de la manière dont l'objet a été conçu. Et puis ensuite, des choses où on se retrouve vraiment dans le cadre de qu'est-ce qui fait une œuvre d'art, ça va être la rareté, la provenance, l'historique d'un objet donné, qui va permettre en fait de le différencier et d'aiguiller correctement un objet.
Donc ça, ce sont les principaux critères. Est-ce qu'il y en a d'autres à connaître? La signature? Ça, bien sûr, évidemment. Encore faut-il pouvoir la retracer. Là aussi, c'est un exercice.
Et encore faut-il que les œuvres soient signées. En réalité, il y a beaucoup d'objets qu'on vend dans ces arts décoratifs du XXe siècle qui ne sont pas signés. Donc la signature n'est pas forcément quelque chose qui est essentiel. C'est sûr que c'est un indice. Un objet signé, souvent, il y a un petit fil à tirer et quand même une histoire à retracer. Mais il ne faut pas du tout s'arrêter à l'idée que l'objet puisse être signé, marqué, etc. Il y a énormément de choses qui ne présentent pas de signature ou de marque.
Alors, dans cette collection que vous allez présenter à la fin du mois de mai, il y a environ 260 lots. Ça s'adresse à qui aujourd'hui, cette vente? Sachant que c'est une vente aux enchères, donc c'est compliqué de parler de tickets d'entrée, mais quand même, en termes de gamme de prix.
Bien sûr.
Quels sont les lots que nous allons pouvoir voir chez Christie's à la fin du mois de mai?
Alors, ce qui est assez fascinant, et ça rejoint le fait que cette catégorie dite design est très large, c'est qu'on a une gamme d'estimation qui est très large aussi. C'est-à-dire que là, on va avoir des œuvres pour les estimations les plus basses autour de 1200-1500 euros et pour les estimations les plus hautes autour de 3 à 5 millions d'euros. Donc, on a vraiment un panel extrêmement large de production qui est à la fois des typologies d'objets, donc des objets qui vont être plus petits, des objets qui vont être plus grands, des objets qui vont être plus rares, des objets qui vont être plus recherchés. Donc, finalement, je n'oserais pas dire que c'est accessible à tous, mais il y a de la place pour tout type de collectionneurs et d'acheteurs au sein de cette vente. C'est vraiment une traversée du XXe siècle et une traversée de plusieurs typologies d'objets.
Estimation, 10 à 15 millions d'euros, hein, c'est ça aujourd'hui
au total,
l'estimation large hein, sur les 260 lots qui seront présentés. Quel est le conseil que vous pourriez donner aujourd'hui à une personne qui souhaite débuter? Un investissement, c'est pas vraiment le terme, parce qu'au final, c'est comme un tableau, ça reste de l'art. Vous l'achetez pas pour spéculer. Il faut que ce mobilier ait un intérêt qui vous tape dans l'œil. Enfin, c'est un achat plaisir en quelque sorte.
Exactement. En fait, c'est foncièrement quelque chose qu'on répète très souvent. Il faut penser plus qu'investissement quand on achète des œuvres d'art, quelles qu'elles soient. Il faut savoir allier justement ce plaisir. Aujourd'hui, en tout cas, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait développer une collection autour du design. La réponse, elle est très simple. Renseignez-vous, visitez des musées, venez dans les salles de vente, allez dans les galeries, parlez aux spécialistes. Le concept des maisons de vente aux enchères, c'est des maisons de vente aux enchères publiques. Et on est ravis de recevoir du public, d'expliquer, de présenter. Et en fait, avec le temps, ça permet à des collectionneurs en devenir de développer leur œil et de comprendre comment une œuvre se différencie d'une autre. Et c'est vraiment sur le temps, sur la durée, qu'on arrive finalement à comprendre.
Sachant que avant la vente aux enchères, il y a une phase d'exhibition où on peut voir un petit peu les lots qui seront présentés. Et puis après, c'est parti, c'est la vente aux enchères qui se fait. Comment on gère son stress aussi dans ces moments-là? Comment on gère un petit peu son prix également qu'on s'est fixé? Parce que c'est vrai que les choses vont très vite. Donc parfois, il faut être rapide. Et puis en même temps, le but, c'est pas de regretter son achat une fois que la vente est terminée.
Tout à fait. Alors c'est toute la magie des enchères. C'est-à-dire qu'effectivement, mieux vaut être renseigné avant la vente, avoir pu voir l'objet, avoir pu lire la fiche, les différentes notices qui peuvent être rédigées, comprendre, encore une fois, la provenance, l'historique, et se donner finalement une idée de prix qui est cohérente avec un prix de marché ou qui est cohérente avec ses attentes personnelles. Après, voilà, toute la surprise des enchères, c'est que on respecte rarement le palier qu'on s'est mis en tête. Donc, il faut être attentif. Il faut aussi savoir gérer cette adrénaline au moment des enchères. Ça va vite. Il y a ce marteau qui va tomber à tout moment. Donc, il faut l'avoir en tête avant de se lancer.
Voilà quelques conseils que vous avez pu nous partager ce matin. Agathe de Bazin, directrice du département design de Christie's France, à l'approche donc d'une vente qui va se tenir à la fin du mois de mai sur le mobilier de design. C'est ainsi que s'achève cette émission. Tout pour investir, que vous retrouvez bien sûr tous les jours de la semaine de 11h à midi sur BFM Business. Et puis dans quelques instants, vous allez retrouver comme chaque jour Marie-Cœur de Roy pour les experts de l'IMO. Et puis on se retrouve demain. Vous continuez bien sûr de nous suivre sur BFM Business, que ce soit sur les marchés cotés à partir de 9h dans Good Morning Market, et puis également cet après-midi avec Antoine-Larry Gaudry à partir de 15h30 pour l'ouverture de Wall Street. Très bonne journée.
Tout pour investir sur BFM Business.